Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi politique. C'est le député Les Républicains Axel Poniatowski, vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Pour vous interroger à mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24 et Alain Auffray de Libération. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission sur la course à la présidentielle à droite avec cette grande bataille de la primaire à 5 mois du scrutin de novembre. C'est toujours d'ailleurs votre candidat Alain Juppé qui fait la course en tête, Axel Poniatowski, avec d'ailleurs un nouveau sujet de débat qui vient donc de s'imposer dans cette campagne des primaires. C'est bien sûr l'avenir de l'Europe au lendemain du Brexit. Le Royaume-Uni a claqué la porte de l'Union. Les dirigeants européens s'activent pour reprendre l'initiative. Refonder l'Europe, c'est le nouveau mot d'ordre, avec avant tout cette priorité, contraindre le Premier ministre britannique David Cameron de s'engager, en tout cas d'engager la sortie de son pays de l'Union au plus vite. Il n'y a pas de temps à perdre, a dit le président Hollande cet après-midi à Bruxelles.
Il faut engager le plus vite possible la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et ensuite engager les négociations qui suivront. Je n'imagine pas un gouvernement britannique quel qu'il soit ne pas respecter le choix de son propre peuple. Ensuite, l'Europe a fait savoir qu'il fallait maintenant, le plus rapidement possible, que le Royaume-Uni dépose sa notification pour sortir de l'Union européenne de manière à ce que nous puissions organiser sereinement les choses dans l'intérêt du Royaume-Uni, sans doute, dans l'intérêt de l'Europe surtout.
Voilà, le président Hollande cet après-midi à Bruxelles, à Axel Poniatowski, il faut cette rupture rapide du Royaume-Uni, on ne peut pas attendre septembre et la nomination d'un nouveau Premier ministre.
Non, sur ce point-là, François Hollande a raison. Les Britanniques se sont prononcés pour la sortie de l'Union européenne. David Cameron a annoncé sa démission. Il faut que tout cela soit immédiat et soit effectif immédiatement, qu'un nouveau Premier ministre soit désigné et que le processus s'engage immédiatement. C'est à la fois une question de respect du choix des Britanniques et puis je pense aussi que l'ensemble des peuples européens regardent la situation très attentivement. Et on peut pas, si un peuple se prononce pour la sortie, on peut pas commencer à jouer avec cela et finalement à faire traîner les choses parce que c'est l'expression de la volonté d'un peuple et l'ensemble des peuples européens souhaitent maintenant que cela se concrétise effectivement. Donc tout cela doit aller rapidement.
Alors on voit aujourd'hui les Britanniques un peu traîner les pieds. La chancelière Merkel semble d'ailleurs les soutenir dans une sortie aménagée. Est-ce que c'est un fantasme de penser qu'en fait ils tentent le délai pour obtenir plus de concessions dans cette sortie de l'Union? C'est la grande question que s'est posée.
Je crois qu'il y a deux choses. Je crois que premièrement ils sont tous très surpris. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Même les Britanniques ne s'attendaient pas à ce que le Brexit...
Ils sont sincères qu'on fera Julie, on ne pensait pas que ça passerait.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils pensaient que le Brexit l'emporterait, d'une part. Et deuxièmement, effectivement, il faut préparer la suite. Parce que les Britanniques ont toujours été extrêmement habiles dans ce genre de négociations. Hein. On l'a bien vu depuis 43 ans, la façon dont a évolué l'Union européenne. Et elle a
d'où
pas
la
mal...
suspicion aujourd'hui. C'est peut-être ce qu'ils sont en train de tenter de faire à nouveau, non?
Je pense que oui, qu'ils sont en train de s'organiser pour négocier au mieux leur future relation bilatérale avec l'Union européenne.
Alain Onfray.
Mais c'est pas un peu paradoxal? On se trouve là, tout à l'heure, aujourd'hui, je crois que les deux tiers du Parlement européen a voté dans le sens qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire demander aux Anglais d'engager rapidement la procédure. On a l'impression que c'est l'Europe qui pousse l'Angleterre, c'est très paradoxal, que c'est l'Europe qui pousse l'Angleterre dehors maintenant. Vous disiez tout à l'heure, il y a un message, l'Europe, les Européens regardent ce qui se passe, donc il est important qu'ils voient que ça va dans le bon sens. Mais le message qu'on est en train de faire passer, c'est on vous pousse dehors, c'est assez un petit peu paradoxal.
Ouais, mais moi, si vous voulez, j'ai le sentiment que tout le monde a pris conscience que la construction et l'évolution européenne se faisaient trop loin des attentes des populations. Et que, avec ce référendum, tout le monde prend conscience que finalement, il faut respecter la volonté des peuples. Et la volonté du peuple britannique, c'est de se désengager de l'Union européenne. Et bien, il faut que ce soit effectif
immédiatement. C'est sa volonté, c'est désormais notre intérêt. À nous qui restons dans l'Union, si j'ai bien compris.
Bah, c'est, oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans le flou. Pour la poursuite du fonctionnement de l'Union européenne, il faut maintenant que les Britanniques se désengagent rapidement.
Roselyne Fèvre.
Est-ce que le départ du Royaume-Uni va changer le rapport de force entre les pays du Nord et du Sud, et bien évidemment au détriment désormais des pays du Nord, puisque l'Angleterre était, le Royaume-Uni était les alliés libéraux de l'Allemagne, du Danemark. Est-ce que ça va inverser un peu
Moi,
la
je
tendance?
Pense que ça va surtout changer la méthode de fonctionnement. Depuis 43 ans que les Britanniques sont membres de l'Union européenne, la marque britannique dans le fonctionnement de l'Union européenne était très prégnante. En réalité, ils ont voulu que l'Union européenne soit essentiellement, et j'allais dire presque seulement, une énorme zone de libre-échange, et ils y sont arrivés. Bien. Maintenant, je pense que ça va permettre de revenir vers une définition de quelles sont les grandes compétences essentielles que nous voulons que l'Union européenne remplisse. La sécurité, la défense, la monnaie, l'énergie. Et puis que finalement, les questions secondaires soient traitées par les États-nations eux-mêmes. Je pense que ça va permettre de préciser les choses, et tout au moins, il me semble que c'est
pour
indispensable.
Pour certains, comme Matteo Renzi, il faut une Europe plus sociale que bureaucratique.
Il faut surtout une Europe qui précise mieux quelles sont les grandes compétences stratégiques de l'Europe, et laisser tous les aspects secondaires au titre de la subsidiarité aux parlements nationaux. Et ne pas avoir un parlement européen et avoir une commission européenne qui s'occupe absolument de tout. Écoutez, c'est juste...
Non,
mais par exemple, c'est juste insupportable encore l'année dernière quand on a appris que l'appellation champagne pourrait dorénavant s'appliquer à toutes les bibines qui étaient produites à travers le monde entier.
Notamment,
or, c'était devenu ça l'Europe. Et je crois que c'est cette Europe-là qu'on ne veut plus.
On en revient au diagnostic. Pourquoi, à votre sens, un tel désamour? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui a motivé cette crise, hein?
Alors,
parce qu'on parle de crise avec la Grande-Bretagne.
Je crois qu'il y a toute une série de choses et que le fonctionnement de l'Europe s'était beaucoup trop éloigné de l'attente des peuples. Mais que ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été cette affaire des migrations et des réfugiés. Je pense qu'Angela Merkel porte une responsabilité importante dans le Brexit. La chancelière allemande, avec son million de réfugiés d'une part, et d'autre part le fait que l'an dernier il y a eu 350 000 migrants en Grande-Bretagne quand M. Cameron avait promis qu'il n'y en aurait pas plus de 100 000, et je pense que ces deux aspects ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Si ça ne s'était pas produit, probablement que le Brexit ne serait pas passé, en plus de tous les autres problèmes qui existent. Mais finalement, ça a été la goutte d'eau.
Et donc, la conséquence que vous tirez de ça, c'est que la priorité des priorités pour l'Europe, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on entend là aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la question des frontières, des contrôles.
Moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est la priorité. La priorité, c'est à la fois donner des moyens à Frontex, multiplier les moyens à Frontex pour mieux contrôler les frontières, à la fois à l'Est et à la fois au Sud. Deuxièmement, c'est parallèlement à ça une prise de conscience que l'aide au développement, en particulier aux pays africains et aux pays subsahariens, doit être considérablement augmentée. Parce que le prochain problème que nous allons affronter, ça va être l'émigration en provenance du Sud. Non plus de l'Est, mais en provenance du Sud. Et elle va déjà se matérialiser dès cet été.
Mais ça fait des semaines, sinon des mois, qu'on martèle ce message dans tous les bons cénacles européens.
Oui, mais je pense que justement, le Brexit doit être l'occasion de cette véritable prise de conscience. Et que c'est l'urgence. La protection des frontières... les moyens à y apporter doit être notre première priorité.
Pourquoi vous dites que ça va se concrétiser dès cet été? Vous venez de dire ça.
Parce que comme l'an dernier, à pareille époque, la Méditerranée est plus calme. On va avoir plus de bateaux qui vont traverser la Méditerranée, en particulier en provenance de la Libye. Que le problème des passeurs n'a pas été réglé. Et que vous voyez bien les désastres qui se produisent dans ces bateaux absolument surchargés sur le plan humanitaire. Je veux dire, ce sont des situations qui sont affreuses et qui malheureusement vont réapparaître là dans les mois qui viennent.
On parlait il y a un instant de la volonté des dirigeants européens d'aller vite dans cette sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Sinon, c'est la dislocation de l'Europe. Alain Juppé disait il y a peu, l'Europe est mortelle. Alors on entendait dans la même journée Obama dire, le président américain, qu'il ne fallait pas surévaluer, je cite, la portée d'une décision qui n'aura pas de conséquences catastrophiques. Qui on croit ?
Moi, je pense que si on ne s'attaque pas très rapidement à ces problèmes prioritaires qui sont d'abord ceux des réfugiés et des flux migratoires, on va au-devant de très 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 sérieux problèmes. Ces flux migratoires deviennent insupportables à l'ensemble des populations européennes, tout simplement parce que on ne peut plus les absorber. Et par conséquent, ce sont des gens fondamentalement qu'il faut d'abord aider chez eux. Mais bien évidemment, on est obligé de prendre des dispositions au niveau de nos frontières qui sont totalement imperméable, je veux dire, aujourd'hui.
Donc si on vous écoute bien, c'est la question de l'immigration. Vous avez l'air de dire que les Britanniques ne répondent pas seulement à la question européenne, ni à des questions économiques, parce que les Britanniques sont les vainqueurs avec les États-Unis de la mondialisation. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui a motivé, d'après vous, comment regardez-vous aujourd'hui ce vote, et qu'est-ce qu'il veut dire de ce populisme qui est en train de
Oui, mais je crois que chez les Britanniques, cette question des flux migratoires a été, une fois de plus, la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que les Britanniques voient immigrer chez eux maintenant depuis une dizaine d'années des centaines de milliers, voire des millions.
Donc ça ne répond pas du tout à la question de l'Europe. On est loin du problème européen.
Mais pour eux, c'est l'Europe qui en permet, qui en porte la responsabilité du fait de la libre circulation des populations à travers l'Europe. Et ils ont vu leur pays se transformer, leur pays devenir autre chose. Vous prenez aujourd'hui le Grand Londres, vous avez les populations d'origine étrangère qui sont plus importantes que les Britanniques d'origine anglaise.
Donc il y a une Europe qui ne veut pas de l'étranger.
Moi, je ne pense pas qu'on peut pas dire une Europe qui ne veut pas de l'étranger, parce que l'Europe, dans tous les cas, ça a toujours été des flux migratoires importants, mais pas dans les proportions que nous connaissons aujourd'hui. Et les proportions que nous connaissons aujourd'hui ne sont plus acceptables, ne sont plus absorbables. On ne peut plus absorber des populations étrangères dans les quantités que l'on voit actuellement.
Alors, Offray.
J'imagine qu'en tant que responsable politique, la situation dans laquelle se trouve Boris Johnson, par exemple, doit vous interpeller. Voilà quelqu'un donc qui a fait une campagne, en agitant d'ailleurs ces problèmes qui sont bien réels que vous soulevez. Mais enfin, manifestement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'avait absolument aucun plan derrière. Aucune idée de ce qu'il allait faire. Est-ce que ça vous pose pas des questions sur la responsabilité des hommes politiques?
Ah ben je pense que Boris Johnson a complètement joué avec le feu, oui. Mmh. Hein, et qu'il ne pensait pas au Brexit, que c'est lui qui va devoir le gérer, que la Grande-Bretagne va au-devant d'une crise économique qui va être une crise économique d'ampleur, que le rôle de la City va être remis en question. Je rappelle que c'est quand même la première place financière mondiale, que dans les négociations avec l'Europe va se poser le problème du passeport financier. Autrement dit que Londres était aujourd'hui la principale place financière de l'euro. Bon, elle ne pourra plus continuer à jouer ce rôle-là. Par conséquent, les Britanniques sont en train de mesurer les conséquences de leur vote. Et je pense qu'effectivement, les dirigeants britanniques qui ont appelé au out sont aujourd'hui très embarrassés.
Comme le sont les dirigeants européens pour refonder cette Europe, on sait que ce sera visiblement également un travail de longue haleine. Par quel procédé on passe? Certains réclament un traité fondateur, c'est le cas Nicolas Sarkozy, d'autres réclament un référendum, comme Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous pensez de l'un et de l'autre?
Moi, je pense qu'il ne va pas falloir aller trop vite avec les traités et les référendums. Parce que sinon, on ne prend aucune mesure d'exécution et de gouvernement avant cela, on va aller droit dans le mur. Et que les peuples, les uns après les autres, se prononceront de la même manière que les Britanniques. Par conséquent, il faut des mesures fortes au niveau de la remise en place des compétences stratégiques de l'Europe. Et je pense qu'il faut aussi préciser les fonctions très rapidement, et les institutions actuelles le permettent, entre d'une part le Conseil de l'Europe, le Conseil européen, et d'autre part la Commission européenne. Je crois que c'est très important que la Commission européenne soit avant tout l'exécutif des décisions du Conseil européen, et qu'on n'ait pas une espèce de double autorité qui finalement se marche un peu sur les pieds l'un et l'autre. Aujourd'hui, les commissaires européens, en réalité, personne ne les contrôle véritablement.
C'est une vraie révolution.
C'est une façon de fonctionner, ouais. Et je crois que c'est tout simplement du bon sens, et que c'est parfaitement normal que ce soit le Conseil européen qui fixe les priorités, qui fixe les objectifs et qui fixe les compétences principales.
Voilà, c'est le Brexit qui va nous ramener un peu de bon sens.
Ben, je le pense, je l'espère.
En France, le Front National, évidemment, se frotte les mains. Elle prouve, dans le fond, avec ce Brexit, que sa démarche est justifiée, en tout cas qu'elle est crédible. On lui disait, on peut pas sortir de l'Europe. Bon, même si comparaison n'est pas raison, puisque les Anglais ont gardé leur livre.
Mais je pense que le Front National va très rapidement être très embarrassé. Voilà, parce que quand le Front National va le voir, quelles sont les conséquences économiques et la crise économique qui va apparaître, et à mon avis assez rapidement en Grande-Bretagne, ils vont rapidement se rendre compte qu'ils ont juste tout faux sur le plan économique. Ouais. Et que le repli sur soi-même, c'est une catastrophe annoncée. Surtout... que si...
À longue échéance, d'après vous, ou très, quand vous dites très vite, c'est
très rapidement. Admettons même, ça sera pas le cas et c'est pas possible, mais admettons même que ça se produise en France. Les effets seraient encore beaucoup plus catastrophiques pour la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de la zone euro. La Grande-Bretagne, elle ne faisait même pas partie de la zone euro. Et nous sommes, nous, avec des contraintes et avec un effet d'intégration qui est beaucoup plus important que la Grande-Bretagne. Et je pense que le Front National va, au vu de ce qui va se passer en Grande-Bretagne, très rapidement déchanter.
Et ça, c'est un peu l'effet de Tsipras, en fait. Le syndrome Tsipras, oui, qui avait promis monts et merveilles, et qui finalement a dû plier,
est obligé de mener une politique aujourd'hui de rigueur, et absolument pas la politique pour laquelle il a été élu.
Est-ce qu'on voit les chefs d'État donc à l'initiative depuis plusieurs jours, dont le président Hollande? Est-ce que vous pensez qu'il est... alors qu'il est très affaibli sur la scène intérieure, le mieux armé pour conduire cette refondation? On a vu votre mentor Alain Juppé bien douter, se dire extrêmement sceptique sur le poids de Hollande dans le cadre de ces négociations. Est-ce qu'il pourra porter le poids de la France dans cette refondation majeure attendue de l'Union?
Malheureusement, Hollande n'a plus beaucoup d'autorité en Europe. Je veux dire, ça fait maintenant 4 ans que et les Français et l'ensemble des Européens lui demandent de mettre en place les réformes qu'il ne veut pas faire. Et en réalité, il veut pas les faire, surtout parce qu'il n'a pas la majorité pour le faire. On le voit bien avec la loi du travail, c'est ce qui est en train de passer. Par conséquent, l'autorité de Hollande sur le plan européen, et moi je le vois bien, est très affaiblie depuis longtemps. Alors espère-t-il, du fait du départ des Anglais, pouvoir retrouver une certaine autorité? Je ne pense pas que ça se produira. Je ne pense pas que ça sera le leader qui permettra de fixer les grands objectifs pour le redémarrage de l'Europe. Je trouve que son souhait d'un sursaut européen aujourd'hui ne veut pas dire grand chose.
En deux mots, à la faveur de cette crise, à la faveur du Brexit, est-ce que ça repositionne pas le débat pour la présidentielle? On a l'impression depuis deux jours que c'est qui sera le meilleur sauveur de l'Europe. C'est un thème majeur dorénavant.
Je pense que ça sera un thème dans les primaires, hein, qui vont arriver, tout comme ça sera probablement un thème au sein du Parti socialiste. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est toujours sous le choc de ce Brexit auquel personne ne s'attendait. Clairement, ça aura un impact dans les campagnes à venir, oui.
C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après les infos, toujours avec Axel Poniatowski, pour parler de la loi travail et de la bataille de la primaire à droite et au centre.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
nous.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Véronique Rigolet.
Mardi politique, deuxième partie, toujours en compagnie du député Les Républicains Axel Poniatowski, vice-président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée et soutien d'Alain Juppé pour la primaire de la droite et du centre à venir en novembre prochain. Pour vous interroger, Alain Onfray de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. Avant de parler justement des primaires, on poursuit un instant sur l'actualité avec toujours le blocage sur la loi travail. 11e journée de mobilisation aujourd'hui dans les rues. Au Parlement, le texte a été réécrit de manière plus libérale et adopté par le Sénat. Il va bientôt donc revenir à l'Assemblée. Ça sera le 5 juillet prochain, où il retrouvera son contenu initial pour une adoption sans doute en force par le 49-3. Est-ce que cette fermeté du gouvernement, Axel Poniatowski, vous la soutenez ?
Oh, écoutez, franchement, c'est son affaire. Je veux dire, cette affaire de la loi du travail est quelque chose qui ne nous concerne peu. D'abord, il y a quasiment plus rien, mis à part la petite possibilité d'accord d'entreprise, et encore avec un droit de regard des syndicats, il y a quasiment plus rien dans cette loi. Elle revient du Sénat telle qu'elle avait été proposée à l'origine. C'était une version que nous soutenions. Donc elle va être complètement de nouveau redéfaite pour être présentée telle qu'elle était partie de l'Assemblée nationale. Il va y avoir une journée de discussion là-dessus le 5 juillet, au terme de laquelle le gouvernement va faire jouer le 49-3, puis c'est fini.
Les Français sont totalement opposé à ce passage en force, au recours au 49-3. Est-ce que vous comprenez ? Certains même se disent choqués selon ce sondage.
Moi, je crois qu'ils sont choqués par le fait que, d'abord, François Hollande a présenté une loi qui est exactement contraire à ce pourquoi il a été élu. Donc, une véritable difficulté de compréhension.
Sur la négociation sociale.
Et qu'il y a une partie des Français qui considèrent comme nous qu'elle ne sert à rien. Et par conséquent, elle est très généralement rejetée, au regard, en plus, de toutes les agitations qu'elle provoque.
4 mois de crise sociale et que des perdants, la CGT et son opposition, finalement, qui n'aura pas débouché sur grand-chose, le gouvernement et son chemin de croix, la CFDT impactée, c'est ça le bilan que vous tirez ?
Exactement, je crois que tout le monde est perdant, enfin tous les acteurs autour de cette loi, le gouvernement et en particulier la CGT sont perdantes. La CFDT aura montré qu'elle était plutôt un syndicat un peu réformateur dans cette affaire, et par conséquent c'est une triste histoire.
Alain Onfray.
Vous ne lui rendez pas service à la CFDT dans ce que vous appelez sa bonne volonté. Les accords d'entreprise, vous dites qu'il n'y a rien, mais les accords d'entreprise, au fond, vous êtes plutôt pour.
Oui.
Vous êtes même complètement pour. Dans tous les programmes, vous allez même beaucoup plus loin.
Oui.
Mais est-ce que cette manière que vous avez de dire ce texte est nul et non avenu, vous enfoncez pas un coin, justement, contre cette CFDT, qui est aussi pour vous, avec laquelle il faudra que vous traitiez,
bien sûr,
vous aussi, si
mais
vous revenez aux affaires.
Mais même, si vous voulez, la façon dont tout cela a été recorrigé, je ne crois pas que la CFDT soit enthousiaste De la version finale, n'est-ce pas, qui est produite. À peine, parce que, regardez, maintenant, il y a des accords d'entreprise qui sont possibles. Enfin, on a quasiment supprimé la possibilité de référendum, puisqu'il faut avoir l'accord du syndicat majoritaire pour le faire. Et puis même, on a supprimé, la branche a dorénavant un droit de regard sur l'accord d'entreprise. Donc, c'est même plus un accord d'entreprise libre entre employés et employeurs. Donc franchement, il n'y a plus grand-chose. C'est clair que lorsque nous reviendrons aux affaires, nous irons beaucoup plus loin que ça.
D'accord.
Oui, mais la critique de la droite, c'est de dire en permanence que François Hollande n'a pas été élu pour faire ce qu'il fait. Mais j'ai envie de vous répondre que ce n'est pas vos affaires, à la limite.
Oui.
Qu'ils aient trahi leurs électeurs, ce n'est pas vos oignons.
Oui.
Donc,
c'est pour ça que je vous dis que c'est...
Voilà. Non, ce n'est pas un argument. Vous ne trouvez rien, j'imagine, de scandaleux à cette loi. Vous considérez qu'elle ne va pas assez loin, mais globalement, vous n'allez pas porter plainte parce qu'il va y avoir une inversion des normes. Vous pourriez être pour l'intérêt du pays, puisque les à droite, on est quand même libéraux.
Patriotes.
Voilà.
Oui,
comment vous n'applaudissez pas à un moment d'un pas qui est fait?
On n'applaudit sûrement pas.
Dans une direction qui, pour vous, n'est pas... n'est pas contestable, on va dire,
mais
idéologiquement.
Comme vous le dites, cette loi n'est pas notre affaire, c'est le problème entre la CGT et le gouvernement, et comme il n'y a plus rien véritablement de libéral dans cette loi, et surtout qui redonne de la compétitivité aux entreprises, C'est en cela qu'on la soutenait. Mais là, il n'y a plus rien en ce sens-là. Bon, ben, cette loi n'est pas notre affaire.
Cependant, il y a quand même, regardez, il y a le chômage a diminué, 22 000 emplois, 200 000 emplois qui ont été créés, une croissance à 1,6.
Non, mais c'est,
globalement, ça n'est, est-ce ça que n'est, vous dites non, ça mais, va un peu mieux?
Non, mais d'ailleurs, il faut rester sérieux, parce que ça n'est en rien l'affaire de la politique menée par François Hollande. Depuis que François Hollande est président de la République, il y a quand même 600 000 chômeurs de plus en France, hein, si vous prenez dans le temps, et la petite croissance qu'il y a aujourd'hui en France, qui est exactement la moitié de celle du reste de l'Union européenne, elle n'existe que parce qu'elle est portée par l'Union européenne. Et c'est pas une croissance qui est créée, non mais qui est créée par les dispositions qui ont été prises en
les
France.
Les 200 000 emplois, bon, c'est pas.
Non mais justement, on est dans l'effet d'entraînement. Mais ça n'est absolument pas le résultat d'une politique de création d'emplois menée par le gouvernement.
Pour autant, si Alain Juppé devait gagner cette course à l'Élysée, cette loi, vous la gardez pour la remuscler de manière.
Ah ben c'est clair qu'on prendra des dispositions de compétitivité pour les entreprises qui iront bien au-delà de cette loi, que ce soit sur la remise en cause des 35 heures, sur la baisse très importante des charges sociales qui pèsent actuellement sur les entreprises, et puis sur l'affaire des seuils, n'est-ce pas, le seuil de 50, le seuil de 100, nous les doublerons, et par conséquent on donnera des moyens qui n'ont rien de révolutionnaire, mais simplement des moyens qui donneront plus de compétitivité aux entreprises et qui, pour le coup, créeront de la croissance. Donc c'est clair que nous irons bien au-delà de ce que peut être cette loi du travail aujourd'hui.
Mais vous la garderez, en la musclant, mais vous la garderez.
Oui, enfin, je ne sais pas si on la gardera, parce que comme il n'y a rien dedans, si vous voulez, on la revisitera elle-même ou autre chose.
Vous aurez encore plus de manifs.
Non, parce que nous ferons exactement ce que nous aurons dit pendant la campagne électorale.
Oui, j'entends bien. Oui, mais les syndicats, ils n'auront pas voté pour vous, de toute
peut-être,
manière.
Peut-être, mais autrement dit, nous appliquerons le programme pour lequel nous aurons été élus.
Donc, vous pensez que vous serez immunisé contre la contestation?
Je pense qu'au départ, ça sera quand même assez compliqué de totalement contester ce pourquoi nous avons été élus, tout au moins pendant la première année.
Voilà, en tout cas, Alain Juppé, toujours en tête de la course à la primaire, même si les sondages se tassent un peu, Sarkozy remonte dans le cœur des militants de droite. À quoi vous attribuez ce qu'on peut appeler un trou d'air,
Axel Kognitowski? Je pense que le fait que Alain Juppé baisse un peu dans les sondages, que Nicolas Sarkozy monte un peu, que les autres prétendants finalement ne bougent peu, était assez attendu.
Quoi, c'est un rééquilibrage?
Oui, c'était assez attendu, parce que tout de même, Alain Juppé était anormalement élevé dans les sondages. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est produit depuis maintenant une quinzaine de jours, voire trois semaines? C'est que les Français ont le sentiment que, ça y est, Nicolas Sarkozy est en campagne, qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et par conséquent, le fait de se lancer dans la campagne, ben ça donne un bonus. Et ce bonus se fait au détriment de Alain Juppé. À ce stade, dans les proportions que nous connaissons, il n'y a rien là de tout à fait anormal.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un duel qui s'installe, Juppé-Sarko?
Oui, je pense, oui.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça change pour la suite de la campagne, justement, après ce trou d'air de votre candidat Juppé? Est-ce qu'il, nécessairement, avant, il déroulait assez confortablement son programme, hein, sans trop être omniprésent dans les médias? Là, on l'a vu un peu plus, évidemment, à cause du Brexit.
Oui, mais
est-ce que ça change quelque chose pour la campagne, que ce trou?
Oui, je pense. Jusqu'à maintenant, Alain Juppé a fait un travail de fond. Il a sorti trois livres. Un livre sur les grandes mesures régaliennes qu'il prendrait, un livre très intéressant sur l'éducation et un livre sur les mesures économiques. Et il en sortira un dernier justement sur les aspects internationaux. Bien. Par conséquent, il a fait un travail de réflexion de fond depuis deux ans. Et parallèlement à ça, il a beaucoup été sur le territoire, beaucoup en province, beaucoup de rencontres, rencontré beaucoup de gens. Et pas tant que ça dans les médias. Bien. Je pense que la phase des primaires dans laquelle nous rentrerons après l'été, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, sera une phase de campagne qui sera plus une phase de campagne électorale, plus de présence dans les médias, radio, télévision, plus de présence sur le terrain de la part des gens qui l'entourent, et on entrera dans quelque chose de plus actif.
Alain Onfray.
Les amis de Nicolas Sarkozy font d'immenses espoirs sur le précédent de 1995. C'est-à-dire qu'ils pensent que vous soutenez, vous, le syndicat,
le candidat.
Alain Houphouët.
Le candidat du système, le candidat des élites. Hein, tandis que Sarkozy, comme Chirac jadis, serait le candidat du peuple, le candidat des militants, etc. Et que donc vous êtes promis au même succès, ou plutôt au même échec que Balladur en 95.
On verra bien. Moi, dans tous les cas, je suis un député républicain. Et je respecterai parfaitement la discipline, c'est-à-dire que nous serons dans tous les cas tous derrière le vainqueur. Parce que notre adversaire, c'est François Hollande, c'est le Front National, ce n'est pas les autres candidats républicains. Non, mais c'est important de le préciser. D'accord. Par conséquent, si c'est Nicolas Sarkozy qui gagne au mois de décembre, je ferai la campagne de Nicolas Sarkozy. Je souhaite, en attendant, pour cette primaire, que ce soit Alain Juppé qui gagne. Car je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui ferait le meilleur président pour les cinq ans qui viennent. Et je pense que les choses vont se jouer sur les programmes, qui sont à la marge plus ou moins différents. Alain Juppé, par exemple, ce qui n'est pas négligeable, dit tout de suite qu'il prendra une quinzaine d'ordonnances tout de suite. Mmh. Nicolas Sarkozy ne souhaite pas fonctionner par ordonnance. Donc on a quand même des différences sur le plan de la méthode de gouvernement qui ne sont pas neutres. Mais je pense que la différence, elle se fera sur les personnalités. Mmh. Et sur la perception que les Français ont des personnalités, et que c'est ça qui fera le vainqueur.
Rosine, non, mais c'était cette question que je voulais poser, puisque effectivement idéologiquement il n'y a pas vraiment de différence.
Non.
Et justement, quelle personnalité d'après vous irait, quel genre de beauté irait aux Français en 2017?
Moi, je pense qu'il faut un président qui fera ce qu'il a annoncé, qui fera ce qu'il a promis. Alain Juppé fera des réformes et annonce des réformes qui sont importantes, annonce qu'il ne fera qu'un seul mandat, ne cherchera pas à courir après sa réélection, et par conséquent, ça me donne très confiance dans le fait qu'il appliquera son programme et surtout qu'il fera les réformes pour lesquelles il aura été élu.
On nous fait le coup à chaque fois, mais bon.
En attendant, samedi prochain, Sarkozy va présenter le projet des Républicains. Hein, ça sera lors du Conseil national. Est-ce que vous soutiendrez, vous voterez ce projet?
Oui, bien sûr, parce que c'est globalement un projet que l'on soutient. Et puis après ça, vous avez ce qui sera le projet de chacun des candidats.
Pour autant, parce il ne vous engage pas, vous dites.
Si, mais je pense qu'après...
Pourquoi il vous engage, ce projet que va présenter Nicolas Sarkozy samedi prochain?
C'est le projet des Républicains, et c'est un projet que je partage et que je soutiens. Mais après, ça devient une affaire de priorité. C'est-à-dire, quelles sont les premières priorités et mesures auxquelles il faut s'attaquer. Et là, je soutiens sur le plan de l'éducation, sur le plan de la compétitivité des entreprises, ce qui est quand même le problème le plus important que nous ayons aujourd'hui, je soutiens les priorités d'Alain Juppé.
Alain Houphouët.
Est-ce que vous craignez pas que, quand viendra le temps de la campagne très, très, très intense, très active, Alain Juppé sera en difficulté parce que, au fond, il aura des difficultés à rentrer dans le combat politique avec son côté quelquefois un petit peu trash. Quelquefois, dans le combat politique, il faut pas hésiter à agresser, faut pas hésiter même à mentir, éventuellement, j'aurais plein d'exemples à vous citer. Est-ce que Alain Juppé acceptera de jouer à ce jeu-là? Votre avis?
Non, je pense pas.
Bah oui.
Non, je pense pas qu'il mentira. Je pense pas qu'il fera preuve d'une agressivité à l'égard de ses concurrents.
Mais l'inverse est probable.
C'est possible. Mmh. Mais je pense que Alain Juppé est quelqu'un qui c'est quelqu'un d'infiniment respectueux. Quand vous travaillez avec lui, vous pouvez le mesurer. C'est quelqu'un qui est très respectueux au regard de l'autre. C'est quelqu'un qui écoute. Et c'est quelqu'un qui, en même temps, a des convictions qui sont très fortes et qui les applique et qui a de l'autorité.
Mmh. Est-ce qu'il ira au Conseil national samedi prochain?
Alain Juppé? Mmh. Je ne connais pas son programme du jour.
Un mot sur les investitures, notamment celles qui ont fait couler beaucoup d'encre. Investitures proposées à nouveau, elles devront être ratifiées à la fin de l'année. Et notamment celles de mise en examen, comme Georges Tron, bien encore Patrick Balkany. Balkany qui a finalement jeté l'éponge aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, de l'investiture qui avait été proposée à Patrick Balkany, 4 fois mis en examen dans diverses affaires financières? Et ensuite, peut-être, pourquoi vous pensez qu'il jette l'éponge maintenant?
Bon, il y a le principe selon lequel les investitures étaient données automatiquement à tous les sortants. Bon, c'est le cas pour Patrick Balteny. Cela étant dit, il est dans une situation compliquée. Ça a agité, c'est pas un secret de vous dire que ça a agité quand même l'ensemble de nos militants hein, et de nos adhérents au Parti Républicain.
C'est vrai, vous receviez du courrier, les gens vous en parlaient ?
Oui, bien sûr.
Vous disiez quoi ?
Bien sûr. Beaucoup de gens qui n'approuvaient pas le fait qu'il avait l'investiture. Et je trouve que le fait que Patrick Balteny ait décidé de se retirer, c'est la bonne solution, c'est la bonne décision.
Alors, il a dit, c'est assez amusant, il a dit qu'il le faisait pour, parce que le cumul des mandats, de toute façon, l'empêchait d'être à la fois député et maire. Or, il soutient un candidat qui se fait fort de restaurer le cumul des mandats, justement, à partir de 2017. Paradoxal.
Ben d'accord, mais lui applique la mesure avant qu'elle ne s'applique.
Vous êtes favorable à cette mesure, d'ailleurs ?
Non, je suis pas favorable au non-cumul. Je trouve qu'on avait trouvé en France un bon équilibre entre un mandat national et un mandat local. Et je regrette que ce soit remis en cause. Bien sûr, je l'appliquerai. Je pense que ça aura un effet tout de même de déconnexion pour les députés du terrain et de leur attache locale. Et en cela, je trouve que c'est un peu regrettable.
Mais vous pensez qu'il est possible de revenir là-dessus dès 2017 ? Parce que c'est ce qu'on dit chez Sarkozy.
Oui, alors Nicolas Sarkozy se fait fort de revenir sur la solution. Je pense que ça sera très difficile parce que c'est une mesure qui est très populaire. Et je la vois mal remise en cause comme première mesure par le nouveau président de la République. Je pense que ce serait maladroit. Donc je pense que ce sera difficile de revenir dessus.
Alors Patrick Balteny, acheter l'éponge, on l'a dit. Est-ce que Georges Tron, vous lui conseilleriez de faire la même chose, même si ce n'est pas le même type d'affaire, hein, harcèlement sexuel d'un côté, affaire financière de l'autre ?
Oui, je lui conseillerais de prendre la même décision.
Vous mettez les deux affaires au même plan ? Ce n'est pas le cas
pour des raisons complètement différentes, mais je pense que tant que le problème n'est pas éclairci, n'est pas traité, n'est pas jugé, je pense que Georges Tron devrait effectivement... revenir sur cette investiture, oui.
Un mot peut-être pour terminer sur les autres primaires, car il y aura d'autres primaires que la vôtre. Ce sera les primaires de gauche. Ça vous a surpris, cette décision ?
Ah oui, beaucoup, oui. Je trouve ça quand même extraordinaire qu'un président de la République sortant ait besoin de passer par la case des primaires pour recevoir l'investiture de son parti, tellement il est lui-même remis en cause. Je trouve que c'est même absolument sidérant dans l'histoire politique, quelle qu'elle soit. Donc c'est quand même pas très glorieux pour François Hollande. Ils ont trouvé un système où il a des chances de gagner cette primaire. Enfin, ça dégage une image assez, assez lamentable.
Celle qu'il n'avait pas d'autre choix que de repasser par cette case.
Mais je pense qu'il n'avait pas d'autre choix pour mobiliser le camp de la gauche. Je pense que c'était la seule possibilité qu'ils avaient pour mobiliser l'électorat de gauche, sinon qui sera déjà assez démobilisé, mais qui sinon l'aurait été encore plus.
Est-ce qu'à droite, on se dit le calendrier va être compliqué pour un président d'aller débattre avec Gérard Filoche en janvier prochain ? Est-ce que vous vous réjouissez de ça, comme à l'époque, la gauche se réjouissait de vous voir, se réjouit toujours d'ailleurs de vous voir vous abîmer dans les primaires à l'automne et cet hiver ?
Bon, non, je veux dire, ça fait partie du débat politique. Voilà, le candidat, quel qu'il sera, l'assumera.
Hollande a toujours ses chances pour 2017, à votre avis ?
À mon avis, elles sont quand même très faibles. Très faibles de voir François Hollande au deuxième tour.
Voilà, c'est la fin de Mardi Politique réalisée par Mathias Golshani. Merci Axel Poniatowski d'être passé par RFI. Merci à nos partenaires France 24, Libération, Roselyne Fèvre, Alain Auffray. C'était la dernière émission de la saison. Rendez-vous à tous en septembre prochain. Bel été à tous.